Piguet.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Claire-Anne Piguet, bonjour.
Bonjour Florian.
On s'est donné rendez-vous, vous m'avez donné rendez-vous au-dessus de Montreux, au château du Châtelard, hein, que tout le monde connaît, on le voit en passant sur l'autoroute, en passant en train. Magnifique endroit. Vous avez fondé, cofondé, je crois, hein, l'ensemble Arabesque, ensemble musical spécialisé dans la musique ancienne, la musique baroque. On va évidemment en parler. Qu'est-ce que ce lieu a d'important pour vous? Pourquoi on est là?
Alors pour la petite histoire, dans la cuisine de ma grand-mère, il y avait un plateau en ornamine, je crois, avec un château du Châtelard complètement délavé, mais qui restait comme ça dans mon imaginaire d'enfant. Et c'est vrai que de pouvoir rentrer dans ces murs et d'imaginer, de les faire vivre grâce à la musique, c'était un rêve qui nous a tout de suite, j'ai presque envie de dire, bouleversés avec mes collègues musiciens, d'autant que l'acoustique de la salle dans laquelle on est en fait en résidence est excellente. Et c'était surtout aussi l'envie d'y faire venir les Montreusiens et les gens qui viennent de plus loin pour apprécier la musique qui finalement est un peu notre cheval de bataille, c'est-à-dire ce à quoi on se consacre et surtout le son des instruments des 17e et 18e siècles.
Bon, vous dites acoustique excellente, mais acoustique qui colle à cette musique-là aussi. Hein,
parce c'est que non vous, seulement vous l'acoustique, mais aussi le visuel. C'est-à-dire que le château, il date de 1440, sauf erreur. C'était un donjon pour rançonner les gens qui passaient en bas. C'était pas très élégant
pas
comme
très
façon.
Amical.
Pas très amical, je pense pas. Le toit a été ajouté plus tard, donc c'était vraiment une tour de garde. Le toit a encore des tuiles d'origine et je crois qu'il date de 1440. C'est un endroit fabuleux qui a été visible en 2012 lors des journées du patrimoine, mais qui malheureusement a refermé ses portes avec les actuels propriétaires. Mais on a la chance justement de pouvoir y convier le public pour ces occasions-là.
Pour ces concerts, parce que vous avez gardé justement avec les actuels propriétaires la possibilité de pouvoir vous y produire et d'y avoir votre résidence. C'est là aussi que l'ensemble, on en parlera de cet ensemble hein, composé de musiciens qui viennent d'un peu partout, mais que l'ensemble peut travailler avant un concert.
Absolument. Et bénéficier d'une acoustique pareille pour le travail, enfin de dire que c'est notre bureau, c'est fantastique.
Mmh. Bon, ouais. C'est vrai que c'est pas tous les ensembles ne peuvent pas répéter et travailler dans l'endroit où ils vont se produire.
C'est même très rare, ouais. C'est extrêmement rare. Ouais.
Ça a une influence sur le travail?
Ah, je pense que autant que l'instrument personnel, enfin celui dont on rêve, et que si on veut l'emballage, la salle, l'acoustique sont l'alpha et l'oméga, bien sûr.
Vous m'avez montré la salle avant qu'on commence la discussion. Alors c'est un vieux château, les planchers grincent, ça fait partie du concert.
Ah, absolument.
Vous
absolument. Bon, il y a aussi des bruits externes qui peuvent nuire, mais il y a les oiseaux si on a de la chance, il y a l'orage parfois. C'est encore des fenêtres d'origine. Donc avec un seul vitrage. Donc évidemment, par exemple, les dangers de l'hygrométrie au moment d'un orage du dimanche soir, on l'a vécu aussi, même si on a survécu à ça.
Bon, comme cette émission qu'on fait dans la nature, on peut y entendre le chant des oiseaux et c'est tant mieux. Vous êtes musicienne, bien sûr, claveciniste. Hein. Le clavecin est votre instrument, votre univers. Aux politiciens, je dis qu'est-ce qui vous a amené à la politique. À vous, je vais dire la même chose. Qu'est-ce qui vous amène à cet instrument particulier quand même, hein, qui a été détrôné par l'arrogant piano?
Alors, j'éprouve, je dirais pas l'arrogant piano. Le piano me fascine, mais quand j'avais 17-18 ans, il me faisait peur de sa largeur,
massif,
ses grandes dents blanches. C'était trop gros pour moi. Et c'est à cet âge-là que j'ai découvert justement le potentiel du clavecin et l'expression, si on veut, peut-être plus intimiste, plus détaillé, plus dans le détail, moins dans la force physique que dans le toucher délicat. François Couperin parlait de l'art de toucher le clavecin, donc il y a quelque chose de doux. Tout ce qui est musculature, c'est pas vraiment musculature des bras, c'est pas notre truc.
On ne boxe pas un piano, on boxe pas un clavecin. Enfin, sans entrer dans trop de techniques, un piano, ça tape les cordes. Hein. Il y a des marteaux qui tapent
absolument
les cordes. Le clavecin, ça les gratte.
Alors, il y a un petit onglet qui va effectivement être en contact avec la touche, la faire vibrer. Et cette vibration du métal entre en contact avec le bois. Et c'est ce cycle qui produit en fait la sonorité.
Ça fait qu'on peut, on peut faire des fortés avec un clavecin en, si on appuie plus fort sur la touche ou
justement c'est... au moment où, les pianos fortés Cristofori ont été inventés, ce qu'on cherchait c'était de faire du forte piano. Nous, on n'a pas cette, ce pouvoir, donc c'est, si on veut, le nombre de voix qui va donner plus ou moins de puissance, ou le nombre de cordes, c'est-à-dire qu'on peut, on peut mettre ensemble deux claviers, par exemple, accoupler les cordes, et ça donne une résonance qui donne plus que le double.
Voilà, sans faire une comparaison, mais il y a des jeux un peu comme, comme dans un orgue.
Hein, tout à fait,
un peu un instrument entre l'orgue et le piano.
Premier jeu, deuxième jeu, absolument.
Bon, on parlait dans cette émission il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, avec la violoncelliste Ophélie Gaillard.
Oui.
Qui nous racontait le contact charnel avec son instrument, son choix, l'évidence de la rencontre entre l'instrumentiste et l'instrument.
Oui.
Et je lui disais à cette occasion-là, les pianistes n'ont pas tellement ce choix-là. Hein, ils ne peuvent, peuvent pas aller jouer avec la Philharmonique de Berlin avec leur propre piano. Il faut forcément découvrir dans chaque salle où on se produit un piano différent. Qu'en est-il du clavecin ? C'est un peu compliqué aussi de bouger avec son clavecin.
Hein. Alors certains bougent avec leur clavecin. Certains ne jouent que sur des clavecins qui ont été faits par un tel ou voilà.
Ah donc il y a ce côté aussi, luthier pour les instruments, facteur j'imagine
fait,
pour les clavecins.
Tout à fait. Et l'angoisse de la veille du concert où on ne sait pas sur quel instrument on va tomber, elle existe vraiment.
Ouais.
Ouais.
Et vous avez votre instrument. Hein. Alors, je l'ai vu, il est dans la salle du Châtelain justement.
Il ouais.
y a une fusion. Avec l'instrument, vous le connaissez par cœur, il y a quelque chose de
complètement, ouais, c'est complètement
charnel.
Fusionnel, absolument. Ouais, ouais, c'est dans le ventre. Enfin, je veux dire, c'est. Je pensais quand vous parliez du violoncelle, le violoncelle vibre vraiment dans le corps du violoncelliste. Le claveciniste, malheureusement, il est un peu assis devant son instrument. Il est même pas aux premières loges pour ce qui est de la sonorité. Il faut le savoir. Donc, on n'a pas la meilleure place. Mais la vibration du son, je pense que c'est. C'est quelque chose qui effectivement touche le plus profond de nous-mêmes et qui nous équilibre aussi, comme les ragas. Il y a quelque chose dans le timbre qui peut réveiller des choses qu'on n'a peut-être scientifiquement pas encore vraiment étudiées ou comprises.
Alors le clavecin, c'est un des instruments de cet ensemble, hein, musique ancienne, musique baroque. J'ai lu sur votre site internet, je veux dire, je l'ai pas tout à fait compris, qu'on pouvait aller chercher des timbres. Qu'est-ce que c'est que le timbre ?
C'est-à-dire que, si on veut, au 19e siècle, on a commencé à construire des salles plus grandes, l'ambition des musiciens, c'était aussi de sortir des salons, etc. Nous, on a plutôt l'envie inverse, c'est-à-dire d'être dans des espaces plus petits, mais de pouvoir, sans amplification évidemment, de pouvoir trouver des couleurs qui sont beaucoup plus riches que ce que le volume va finalement unifier. Ça, c'est complètement à l'envers de ce que les gens recherchent maintenant.
Si on vous dit, on va rester dans la région, musique baroque au 2M2C, ça va pas, ça matche pas.
Alors il faudrait, je pense qu'on pourrait profiter du bois merveilleux du 2M2C, mais il faudrait mettre des panneaux orientés, travailler pour que le son passe.
Donc c'est une musique plus intimiste.
Voilà,
on va dire
absolument.
Que les grandes œuvres romantiques du XXe siècle.
Sans parler évidemment des musiques actuelles que j'apprécie, mais qui vont vraiment dans une direction parfois opposée, quoique.
On remarque que les instruments de la musique classique ont trouvé leur on fait leur trou dans les musiques suivantes, hein, le jazz, la musique actuelle, etc. Mm-hmm. Le clavecin, on a l'impression qu'il est un petit peu resté coincé.
Il y a beaucoup de films des années 60 où tout d'un coup on entend un son de clavecin. Il y a passablement de compositeurs qui ont aussi écrit, en tout cas au XXe siècle, XXIe, qui ont réchauffé, si on veut, l'aspect surtout. Comment dire, j'ai regardé le chien donc j'ai perdu mon mot. Le côté percussif de l'instrument a été beaucoup utilisé à un certain moment, justement par exemple percussion et clavecin. Certains aussi découvert son potentiel mélodique. Donc, je pense que c'est un instrument qui peut toujours réveiller, stimuler les compositions nouvelles.
Bon, avec quand même une petite discrétion, hein, quelque chose qu'il est bon d'aller découvrir, et vous le faites découvrir grâce à cet ensemble Arabesque, qui est né il y a une quinzaine d'années, hein, si je ne me trompe.
Alors, il y a eu plusieurs étapes. La série de concerts a commencé en 2011, mais il y avait un certain temps, même plusieurs années, qu'on travaillait à droite à gauche et qu'on cherchait des endroits qui conviennent justement à notre style de musique.
Vous avez trouvé l'endroit, vous aviez déjà les musiciens, ce sont des musiciens qui, comme vous, se passionnent pour cette musique-là, la musique baroque, la musique ancienne.
Alors, c'est des gens qui font de leur langage, justement, qui communiquent au moyen de cette musique-là.
Musiciens professionnels.
Absolument, oui. Ouais. C'est des gens qui ont, si on veut, qui se sont spécialisés dans une recherche sur les manuscrits, sur la musique ancienne, sur la façon de la jouer, ce qui est évidemment une utopie parce qu'on n'a pas d'enregistrement, mais ça peut être un défi magnifique aussi d'essayer de restaurer entre guillemets ce que les couleurs d'un tableau pouvaient représenter et de restaurer les sons qu'on pouvait imaginer.
C'est quelque chose qu'on connaît pas beaucoup quand on connaît pas bien le monde de la musique classique, hein, dans la vie des musiciens, chacun a sa vie, ses contrats, tout décroche un contrat dans un orchestre, etc. On peut être affilié à un orchestre et puis on peut avoir une bande finalement. Vous êtes
absolument
une bande.
Ouais, hein, ouais,
vous réunissez pour bande, des objectifs particuliers que sont les concerts.
Exactement. Ouais, ouais. Et on a eu la chance aussi de travailler avec un cuisinier historique par exemple. On va avoir à Saint-Pré un repas comme il se faisait à la cour de Louis XIV, donc avec les musiques de Delalande. Donc c'est aussi des collaborations tellement passionnantes. J'entendais deux cuisiniers parler ensemble, l'un a proposé la pomme de terre, l'autre a dit « Ah non, 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 c'est beaucoup trop tôt ». De voir comment eux conçoivent un menu, comment nous préparons un programme, c'est des aventures similaires et tellement intéressantes.
Bon, vous avez prononcé le mot, hein, Louis XIV, grand roi, évidemment, c'est, on peut dire, l'Europe de Louis XIV.
Hein. Absolument.
Une musique, la française en tout cas, qui était très axée sur la danse, parce que sa grâce, le roi aimait danser.
Absolument, c'était un bon danseur
un bon
et
danseur
aussi un bon musicien.
Quand il était jeune, et ouais. Avec voilà, une sorte d'apogée de la technique musicale, et je l'ai entendu de votre bouche, hein, dans une interview précédente, de la codification. Finalement, on s'est dit, il faut tout codifier, il faut tout garder pour l'avenir.
Absolument, c'était cette période juste avant les encyclopédistes où on s'est dit mais on est en train d'atteindre un point très haut de notre art et il faut trouver moyen justement de le transmettre. Et c'est passionnant parce qu'il y a environ 700 chorégraphies qui ont été notées. Donc ça nous donne aussi l'occasion de savoir par exemple quels sont les tempi ou quelles sont les allures de telle ou telle danse. C'est un monde infini.
D'ailleurs, vous parliez de cuisiniers, hein, tout à l'heure.
Voilà.
Vous travaillez avec des cuisiniers, vous travaillez aussi avec des danseurs parfois.
Absolument.
Et
avec
là,
grand plaisir.
On retrouve tout le sens de cette musique du 17e pour le coup, mais vous allez jusqu'au 18e, et peut-être même un peu avant le 17e d'ailleurs. Hein,
c'est clair, la Renaissance.
Dans votre répertoire,
ouais,
dont on va parler dans la deuxième partie, parce que nous sommes déjà à la fin de la première. À tout de suite.
Merci.